Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Dans cet épisode, je vais vous donner deux engagements perso et des questions qui vont vous permettre de créer du contenu bien plus inspirant. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Cheveux Blancs et Idées Longues, le podcast dans lequel nous parlons d'entrepreneuriat, de marketing, de création de contenu, même quand on a passé la quarantaine, quand on nous dit qu'on est un petit peu foutu pour ça, que ce sont les jeunes qui sont les maîtres de ça, et que nous, bah, on a bien envie de le faire, qu'on a bien envie de développer une nouvelle activité, qu'on a bien envie de s'exprimer sur ce que l'on sait faire, sur ce qu'on a envie de faire, peut-être créer d'ailleurs même votre nouveau métier comme ça, parce que hein, on nous le dit, hein, on nous parle beaucoup de retraite ces derniers mois, mais on va pas attendre la retraite comme ça dans notre coin en disant j'ai un métier depuis 10, 15 ans ou 20 ans, je vais le continuer à faire encore pendant 10, 15 ans ou 20 ans. Non, moi je suis pas là-dedans, moi je suis dans la veine de ceux qui pensent qu'on doit créer des petits projets, des structures pour faire des choses qui nous plaisent vraiment. Voilà, donc, c'est ce que je vous aide à faire dans ce podcast, et notamment dans ces épisodes-là qui sont des carnets de bord. En ce moment je fais que des épisodes carnets de bord parce que en fait, c'est un petit peu ma nouvelle manière de voir les choses, de voir la création de contenu sur ce podcast. Je vais vous expliquer un petit peu deux engagements principaux que j'ai pris avec moi-même sur cette fin d'année, mais qui vont me conduire beaucoup de choses pour 2024. J'avais un petit peu déjà fait sur 2023 certains aspects, mais je me suis rendu compte en fait que je le faisais dans certains podcasts et pas dans tous les podcasts, et je vais vous expliquer vraiment ce que c'est. Ça va me permettre aussi, derrière, d'en faire découler un petit exercice pour vous, justement, pour vous aider à faire le même genre de contenu, des contenus qui sont beaucoup plus intéressants que ce que vous faites peut-être jusqu'à maintenant, parce que je pense que c'est là qu'on va aller chercher, en fait, le truc le plus intéressant dans ce qu'on peut faire, dans ce que nous pouvons faire, dans ce que nous pouvons partager. Ça, c'est un élément qui est vraiment très important pour moi. Mais avant de faire ça, je dois vous dire quand même deux petites actus, pour que vous soyez tous au courant, si vous ne me suivez pas sur Instagram, si vous ne regardez pas ce que j'ai fait par ailleurs, notamment sur YouTube, je vous donne deux petites actus. La première, c'est que je me suis fait une entorse, je pense, quelque chose qui ressemble à une entorse de la cheville, même si c'est plutôt le pied qui a tourné plutôt que la cheville. On va dire, bref, entorse de la cheville. C'est la première de ma vie, c'était lundi de la semaine dernière. Ça fait donc 10 jours que je ne cours plus, alors je courais tous les jours depuis 850 jours, donc depuis 2 ans et demi à peu près. Et bon, voilà, donc je suis, dois attendre. Ce matin, j'ai vu le médecin m'a dit, les ligaments, s'ils sont touchés, c'est quand même 6 semaines pour qu'ils se remettent bien, pour qu'ils cicatrisent, qu'ils se guérissent et tout. Donc ça voudrait dire qu'il me restera à attendre un peu trop longtemps. Voilà, on va dire un gros mois à peu près. Même un peu plus d'un mois avant d'être vraiment guéri, de plus avoir de douleur. Donc le pied déjà n'est plus enflé, il a un peu, encore un peu enflé, mais beaucoup moins qu'avant, il est beaucoup moins bleu qu'avant. Donc elle m'a dit que c'était quand même pas si mal que ça, mais qu'il faudrait faire quelques petites choses, notamment de la rééducation, de la kiné, et puis voilà. Bon bref, ça je vous en tiendrai au courant. Mais je vais vous en parler un petit peu plus loin parce que c'est important. C'est vraiment, je vais vous le dire parce que c'est important pour la suite de l'épisode. Et puis j'ai aussi fait la semaine dernière une vidéo sur l'import de podcasts dans YouTube à partir d'un flux RSS. Alors si vous avez un podcast, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Si même si vous n'avez que du podcast audio, si vous avez envie que votre podcast soit sur YouTube pour qu'il soit découvert par plus de gens, pour que des gens puissent le découvrir par YouTube tout simplement, et si vous n'avez pas envie de vous casser la tête, il y a un moyen de grosse feignasse que vous pouvez mettre en œuvre. Désormais, c'est YouTube qui l'a mis en œuvre directement par sa plateforme. C'est que vous pouvez créer un podcast comme une playlist podcast dans YouTube. Ça, on pouvait le faire depuis des mois. Mais cette playlist podcast, vous pouvez la remplir automatiquement à partir d'un flux RSS, donc de votre flux RSS de votre podcast. Ce qui veut dire que votre podcast, quand vous publiez chez votre hébergeur de podcast classique, en fait, YouTube va se comporter tout simplement comme étant un lecteur classique Apple Podcast, Spotify, Deezer, c'est-à-dire qu'il va l'importer, il va vérifier les flux de RSS en permanence, il va importer l'épisode, il va créer une vidéo qui n'a que la jaquette, que la vignette de votre podcast. Mais le gros avantage, c'est que quand les gens vont écouter votre podcast sur leur application mobile, et ben en fait, ça a la même tête que s'ils écoutaient ça sur Apple Podcast ou Spotify. C'est-à-dire que la vignette, le bout de présentation en dessous, il n'y a pas les autres vidéos. Enfin voilà, c'est très propre. On dirait un lecteur de podcast. Il manque juste un aspect un petit peu de pouvoir écouter en éteignant le téléphone. Ça, vous savez que ça fait partie des abonnements trucs payants. Là, l'information que je voudrais rajouter, c'est que j'ai importé le podcast que vous êtes en train d'écouter. J'ai fait la démonstration dans la vidéo et il restait à ce que YouTube importe toutes les vidéos tous les épisodes. Et comme il y a plus de 600 épisodes, ça a pris un peu de temps. En fait, ça a pris presque une semaine, cette histoire, presque une semaine. Mais ils ont fini l'importation, donc ça veut dire que l'épisode maintenant est, la playlist est déjà désormais publiée directement comme ça sur YouTube. Donc ça a marché. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai reçu des centaines de mails sur la monétisation de mes vieux épisodes et en me disant, tous mes anciens épisodes ne peuvent pas être monétisés. Pourquoi? Et je vais vous expliquer, vous allez voir que c'est très vicieux cette histoire. C'est qu'en fait, j'avais à l'époque acheté un générique venant de Epidemic Sound. Alors là, on parle d'épisodes qui ont certains 5 à 6 ans, tout simplement. Parce que là, tout à l'heure, c'était l'épisode 41, par exemple, qui s'est fait bananer. L'épisode 44, 87, enfin des choses comme ça. Donc si j'avais un générique qui avait été acheté chez Epidemic Sound. Epidemic Sound, si vous connaissez pas le principe, c'est que vous payez un abonnement. Tant que vous payez un abonnement, vous pouvez utiliser les musiques sur tous les nouveaux contenus. Si vous aviez un abonnement sur des anciens contenus, quand vous l'avez publié sur l'ancien contenu, l'abonnement, en fait, le moment où vous avez payé, ça reste valable sur les contenus que vous avez créés pendant la période d'abonnement. Si vous vous désabonnez, vous ne pouvez plus utiliser ces sons ces sons, principalement là, dans ce cadre-là, vous ne pouvez plus les utiliser sur les nouveaux contenus. Bon, là, jusque-là, ça posait pas de problème. Ce qui se passe maintenant, c'est que comme YouTube importe mon flux RSS depuis quelques jours, pour YouTube, c'est un nouveau contenu. Donc, ils ont vérifié les droits par rapport à Epidemic Sound qui dit Bertrand Soulier n'est plus abonné. Donc, nous, on veut pas que ce soit monétisé. Donc, c'est Epidemic Sound qui va récupérer la monétisation de ces épisodes. Ce qui doit représenter peut-être, 200, peut-être 300 épisodes, j'en sais rien, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, je ne sais pas, j'ai pas fait le calcul. En fait, dès que je vois les mails, il y en a tellement qui arrivent que je les banane, donc j'ai pas fait le compte des mails. Je pense pas que je perde beaucoup d'argent sur cette histoire-là. Hein. J'ai eu un virement la semaine dernière sur ma coopérative qui arrive de chez de Google, de YouTube. C'est pas des sommes énormes, même si me démonétise ça, c'est pas vraiment problématique. Ce qui me gêne un petit peu plus, c'est plutôt dans l'esprit que ça fait un peu pirate quand même d'avoir des centaines d'épisodes comme ça qui sont démonétisés. Je vais voir avec eux s'il y a un moyen de dire, celui-ci à l'époque, quand il a été créé, j'avais l'abonnement, enfin voilà. C'est pas trop pour récupérer la somme, c'est surtout pour essayer de montrer patte blanche. Voilà. Mais en tout cas, sachez-le, ça peut arriver, c'est le genre de choses qui peut arriver. Donc ils m'ont pas dit, c'est pas des strikes, je vous ai tellement en pirate, vous recommencez à vous virer, parce que sinon je serais viré depuis pas mal de temps, puisqu'il y a quand même des centaines de mails qui tombent. Mais voilà, ça peut arriver, ça fait partie en fait un petit peu du second effet de cet import-là, et peut-être que j'en ferai une vidéo d'ailleurs, parce que c'est intéressant d'en parler en complément de la première vidéo. Bon, en tout cas, la première vidéo, elle est faite, et sur ma chaîne YouTube. Si vous cherchez Bertrand Soulier sur YouTube, vous allez voir la vidéo, elle est faite, et dedans, il y a d'autres conseils, notamment pour lancer votre podcast, développer un podcast, monétiser un podcast, les outils, etc. Voilà, maintenant, venons-en au cœur du sujet de cet épisode, sur mes deux engagements. Mon engagement 1, il est assez simple, c'est comment je vais créer du contenu maintenant, et j'ai décidé que, notamment sur ce podcast, j'allais créer du contenu avant tout à partir de ce que je vis. Mais c'est valable en fait pour aussi mes vidéos, et c'est aussi valable pour mes formations, pour les contenus de mes coachings, des programmes, etc., de livres que je suis en train d'écrire, enfin tout ça. C'est vraiment en fait, au lieu de... L'idée, pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'il y a trop de créateurs de contenu qui ont une tendance à vouloir créer du contenu sur les sujets qui sont importants dans leur thématique. Les sujets importants dans la thématique, c'est un peu facile de dire parce que c'est... J'ai envie de dire, vous pourriez demander par exemple à Google, ou vous savez, il y a un outil alors qui existe encore en source publique, vous pourriez demander à ChatGPT, vous pouvez demander à plein de gens, qu'est-ce que font les gens sur la thématique, qu'est-ce qu'ils recherchent. Et donc, dans ce cas-là, vous allez avoir une réponse. Google va vous donner, ou YouTube va vous donner, par exemple, les contenus les plus populaires sur votre thématique. Et en général, il sait toujours comment faire ça, etc. Voilà, c'est toujours des trucs comme ça. J'en ai plein des contenus de ce type-là. Bon. Le truc que je voudrais faire maintenant, c'est que je trouve que ça fait très Wikipédia et qu'en fait, c'est très facile de faire ce type de contenu. Très facile de trouver le titre du contenu, mais pas si facile que ça à faire des fois parce que on se retrouve dans un domaine où après, il faut faire des recherches parce qu'on connaît pas forcément le sujet, parce que on est sur un bout de la thématique peut-être qui nous passionne pas le plus, sur lequel on n'a pas vraiment creusé les choses, et puis surtout que comme on n'a pas beaucoup de vécu dessus, on se retrouve avec des contenus qui sont un petit peu plat, 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 plat. Wikipédia, c'est plat en fait. Il y a pas de une page Wikipédia, n'a pas beaucoup d'émotions, et je n'ai pas beaucoup d'émotions. On n'a pas envie, elle est pas sympathique, elle est pas souriante, elle est pas triste, elle génère pas d'émotions de rire ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, c'est de l'encyclopédie. Une encyclopédie, c'est factuel. Voilà. Et on sait en plus, que Wikipédia, plus une page est modifiée souvent par plein de gens différents, surtout par plein de gens différents, plus la page, en fait, elle est vraiment factuelle, précise et très proche de tout ce qu'on sait. Mais forcément que tout ce qui est émotion, rire, blague, etc. n'existe pas dedans. Ça n'existe pas. Or, nous, quand nous avons besoin d'informations, nous avons besoin de cette information-là. Mais comment nous retenons cette information-là et comment nous l'utilisons? On la garde en mémoire, on la mémorise beaucoup plus facilement quand elle est reliée à des émotions. J'avais parlé il y a très longtemps, dans un des fameux épisodes là qui s'était démonétisé sur YouTube, de ce qu'on appelle le VACOG. Alors là, on est sur VACOG, c'est la vue, c'est l'audition, c'est les différents sens. Quand on arrive à relier en fait des contenus que nous faisons à des sens, aux différents sens que nous avons. Il y a des trucs qui sont faciles, par exemple, vous pourriez dire quand je prépare un gâteau, j'ai telle odeur, etc. Bon, là, c'est facile. Mais en fait, vous pourriez aussi dire que, par exemple, si vous faites une recette de cuisine, vous pourriez convoquer certaines émotions par des sens qui sont le toucher, par exemple. Le toucher de la pâte va vous rappeler, de la pâte sablée va vous rappeler quand vous jouiez dans le sable, quand vous étiez enfant, à faire des petits pâtés de sable, etc. Là, faire un crumble, ça vous rappelle un petit peu ça, vous adorez ce moment-là. Ça peut être d'entendre les... Par exemple, l'autre jour, j'ai fait un truc sur les frites, le bruit, le craquement des frites dans la friteuse. Une fois qu'elles sont cuites, on les entend grésiller, pétiller comme ça et tout. Moi, j'ai dit que ça me fait un peu un truc ASMR. Bon, on peut jouer avec les différents sens comme ça. Et en fait, ces sens, généralement, ils vont convoquer aussi des émotions. Et ces émotions, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est elles qui permettent à notre cerveau d'imprimer beaucoup plus facilement l'information en elles, en nous, quoi, tout simplement. Donc, ce truc-là, en fait, rend le fait de parler de choses que nous vivons et que nous avons vécues, que nous allons vivre, que de le raconter, de comment nous l'avons fait, comment nous le vivons, de mettre dedans de l'émotion, de mettre dedans du sens, de mettre dedans des choses qui sont plus proches aussi de notre humanité, en fait, de comment nous sommes des personnes, tout simplement. Et pour notre audience, pour les gens qui vont nous écouter, ça va être aussi pareil. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont pouvoir se projeter beaucoup plus facilement. Parce qu'on va dire, ça me rappelle quelque chose, ça je l'ai vécu, j'aimerais pas le vivre. J'aimerais pas le vivre. Si, par exemple, aujourd'hui, je vous raconte comment je me suis fait mon entorse à la cheville, comment je me suis tordu, la douleur que j'avais et tout, si j'y mets vraiment tous les termes que je voudrais le mettre dedans, vous allez dire, j'ai pas envie de le vivre, etc. Mais le fait que je vous le raconte en ces termes-là, plutôt vous dire, reprenons l'entorse, plutôt vous dire, voilà, une entorse, c'est facile, c'est simple, c'est quand il y a une torsion qui se fait dans le pied, il y a l'os qui part comme ça, il y a ça qui part comme ça, le ligament part dans ce sens-là et tout, voilà, tac, hop, paf, tac, c'est pointu, il y a une entorse externe, une entorse interne, et voilà. Bon, ok. Maintenant, si je vous raconte différemment les choses, je pourrais vous dire, j'étais en train de courir le soir, un petit peu dans la nuit, c'était bien, c'était en groupe, il y avait d'autres personnes, on discutait tranquillement, mais j'ai pas trop fait attention où je posais les pieds. Et puis, sur un bord de route, il y avait un petit trou qui était caché, et là, j'ai mis le pied, et tout d'un coup, j'ai senti que mon pied partait sur l'extérieur. J'ai senti une douleur très vive. Aïe, ça m'a fait mal sur le coup, mais je me suis accroché, j'ai continué à courir, et puis j'ai perçu l'entraînement, mais en rentrant, je sentais que mon pied était en train de gonfler dans la basket, au point que ça me faisait de plus en plus mal. Et quand j'ai enlevé mes chaussettes, j'ai vu que mon pied avait gonflé. Le lendemain, il est devenu tout bleu, et à chaque fois que je pose le pied par terre, je fais, aïe, 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 ça me fait mal. Bon, tout d'un coup, vous avez plus envie de ne pas le vivre, j'ai envie de dire. Et en fait, vous allez retenir la douleur, vous allez retenir le fait que j'ai pas fait attention où je posais le pied, le fait que je cours avec d'autres personnes, tout un tas d'éléments de ce type-là. Et en fait, ça permet pour vous, quand vous racontez les choses de cette manière-là, de transmettre beaucoup plus d'informations. Ça vous permet de transmettre l'information, les émotions, ça vous permet de transmettre aussi les situations dans lesquelles on peut se faire ce type de blessure. Ici, typiquement l'entorse, parce que l'entorse peut arriver dans plein de cas sur une entorse. Mais le fait que vous racontiez comment vous avez, vous, vécu une entorse, voilà, c'est mon cas de l'entorse, mais on peut prendre plein d'autres sujets, et j'en reviendrai à les questions à la fin pour que vous puissiez cerner les sujets, ben, amène en fait du vécu, la projection des personnes qui vont l'écouter, de se dire « Ah oui, ça je l'ai vécu comme ça, ça j'aurais pu le vivre, ah oui, je vois très bien ce que ça a pu se passer. » Et puis, il y a une sorte de dialogue intérieur qui va se faire dans la tête des gens qui vont vous écouter, en disant « Oh là là, putain, mais le pauvre, oh, j'aurais pas voulu vivre ça. Ah oui, mais attends, moi ça me rappelle ça quand j'ai vécu ça. » Et puis, dans quelques temps, en fait, quand la personne va se retrouver confrontée à la même problématique, eh ben, vous allez lui remonter dans l'esprit parce que, en fait, le cerveau de votre audience, en fait, enregistre ce qui est lié aux émotions. Il enregistre tout ce qui est lié aux émotions. C'est pour ça que c'est très curieux, en fait, ces discussions que j'ai souvent avec plein de personnes qui me disent « Alors, il y a plein de trucs dont je me rappelle pas dans ma jeunesse, dans mon enfance, mais alors, je me rappelle tellement cette visite chez le médecin où j'ai eu peur, j'ai hurlé, où j'ai été terrifié. Pourquoi on se rappelle de ça qui a peut-être 30 ou 40 ans et on était tout petit et qu'on se rappelle pas de tout ce qui s'est passé avant, après, et même il y a des choses qui ont 2-3 mois, 1 an ?» Ben parce que en fait, à chaque fois qu'on a une émotion forte qui est associée en fait à un événement, l'événement s'inscrit beaucoup plus en nous, parce que quand c'est une émotion forte de douleur, de tristesse, enfin négative on va dire, globalement négative, et on n'a pas envie de la revivre, donc notre cerveau va se mettre en alerte pour dire comment on fait pour pas revivre ça. Et quand c'est une émotion positive, notre cerveau va se mettre en capacité de vouloir la revivre. Hein. On est vraiment dans le cercle dopamine, etc. Donc, à partir de là, en fait, quand vous racontez, vous, vos histoires, quand vous racontez ce que vous faites, quand vous racontez les problématiques que vous vivez, quand vous racontez vos succès, je viendrai après là-dessus, eh ben, quelque part, vous transmettez ces émotions. Et ces émotions vont s'inscrire plus facilement dans la tête de votre audience, à la fois pour mémoriser l'expérience, mais à la fois pour mémoriser vous, ce que vous faites. Donc, partant de cette réflexion-là, moi, j'ai décidé de dire, ben, je vais plutôt raconter cette partie-là, en fait, de ce que je fais au quotidien, comment je le vis. Et ça marchait beaucoup sur le sport, c'est ce que je faisais sur Kilomètre 42, c'est comme ça que j'ai commencé Kilomètre 42, c'est aussi comme ça que j'ai commencé Kilomètre 50 il y a maintenant presque un an. Et maintenant, en fait, ce que je voudrais faire, c'est aussi le faire, là, ce que je suis en train de vous expliquer dans ce podcast, en fait, tout simplement, mais aussi dans mes vidéos, mais aussi dans mes formations, dans mes coachings, c'est-à-dire, en fait, aller chercher ce vécu-là, et de dire, je vais me baser sur ce vécu pour raconter des histoires autour de ce vécu. Et donc, je vais le faire à la fois sur la partie sport, mais je vais le faire aussi sur la partie podcasting et sur la partie business. Sur la partie podcasting, je pourrais très bien raconter quelque chose comme comment je développe mon podcast, quelles sont les stratégies que j'ai appliquées pour développer mon podcast, comment j'ai fait pour gagner de l'audience, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai perdu une personne qui faisait des vidéos avec moi, quelles ont été les conséquences sur les statistiques, comment j'ai fait pour refaire monter les statistiques, qu'est-ce qui s'est passé avec un annonceur, comment j'ai pu convaincre un annonceur de venir sur le podcast. Bah, voilà, c'est infini parce que tout ça, je l'ai vécu. De même, si je reprends ma blessure, c'est facile dans Kilomètre 42 de parler de ma blessure, c'est comment je la gère mentalement. Ah bah tiens, c'était l'épisode de ce lundi. Comment je peux la gérer physiquement, comment je vais accompagner les soins, parce que moi, je suis pas médecin, mais les médecins me disent ça, je vais avoir la kiné qui va me faire faire des exercices, qui va me faire ça, etc. Et donc, comment moi, je vais le faire? Est-ce que je vais en amplifier? Comment est-ce que je vais faire? Enfin, quand je dis amplifier, c'est est-ce que je vais garder les exercices, les faire déjà, mais en rajouter d'autres, lui en demander d'en faire d'autres, essayer d'accélérer? Est-ce que je vais manger des choses pour accélérer la guérison, par exemple? Voilà, donc, je sais pas, prendre du collagène ou je ne sais quoi pour dire, bah tiens, pour réparer les ligaments, est-ce que ça en a besoin ou pas? Enfin, tout un tas de choses qui pourraient se poser comme question. Et puis, bien sûr, comment je vais reprendre ensuite, quelle est la méthode de reprise, qu'est-ce qui va se passer quelques mois après, est-ce que je vais progresser, voilà, qu'est-ce que j'ai appris? Donc, tout ça, je peux le faire dans Kilomètre 42, mais je peux le faire sur le podcast, je peux le faire sur le business. Et j'ai commencé à le faire, et c'est l'orientation de ce carnet de bord, c'est vraiment de dire, bah finalement, comment j'ai fait pour générer tant de chiffre d'affaires, comment je me suis pris une claque là-dedans, comment ce que je pensais être un succès est devenu en fait un vrai problématique. J'avais fait d'ailleurs, pourquoi, sur le Boost Camp, j'ai annulé le Boost Camp, Tout simplement parce que je le sentais pas, donc j'avais expliqué ça. Et donc, en fait, l'avantage de ce type de contenu, c'est que il s'appuie sur du vécu, il s'appuie sur ce qu'on sait, et non pas sur ce qu'on a lu, sur ce qu'on a vu quelque part. Là, on est vraiment dans le vécu, et on peut le raconter, on peut vraiment raconter l'histoire, on peut y mettre des détails si on a envie, mais on peut en tirer aussi des conclusions, on peut en tirer des grands... des grandes conclusions, des grandes... les grands bénéfices, voilà, les grandes conclusions. Et puis on peut faire des séries aussi. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, je vous ai parlé de ça. Voici où j'en suis maintenant. Et puis quelques mois après, je pourrais en reparler. Enfin, vous voyez, il y a une espèce de feuilleton qui se fait. Et en même temps, en plus, ça permet aussi à votre audience de s'accrocher en fait au personnage que vous êtes, à la personne que vous êtes. Quand je dis personnage, hein, c'est pas côté personnage qui est différent de vous. En fait, c'est de lui montrer qu'en fait, vous êtes une personne qui n'est pas juste en train de parler d'une thématique, mais qui est une personne qui vit la thématique, hein, qui vit la thématique. Je suis en train de faire des recherches, par exemple, pour faire un podcast qui serait en full automatique à partir de l'IA, l'intelligence artificielle. Ça, c'est un petit projet qui me traite dans... J'ai ça dans la tête et je me dis ça pourrait être fait. L'IA ne pourra jamais décrire les émotions. C'est-à-dire que la thématique que je vais choisir pour ce podcast, grâce à l'IA, sera forcément une thématique qui sera un petit peu froide, j'ai envie de dire. Hein, ça sera pas une thématique... très très chaude, hein, voilà. Quand je dis froide ou chaude, c'est-à-dire qu'en fait, froide, c'est on sera plutôt dans du Wikipédia, dans du chaud, on serait plutôt dans le vécu, dans le comment je peux le raconter, comment je pourrais presque le raconter, presque en direct, en le vivant, quelles sont les émotions que ça m'inspire et autres. Là, sur si je fais faire ça par l'IA, l'IA, là, c'est pas ce que j'ai dans la tête, elle peut pas le raconter, elle n'a pas d'émotion, elle peut pas raconter ça. En fait, elle fait finalement un bilan de tout ce que les gens ont raconté. Donc finalement, ça reste du Wikipédia très froid, même si on peut lui demander de mettre de l'empathie, on peut lui mettre de la bienveillance, on peut lui demander d'écrire avec des mots qui soient plus émotionnels. C'est pas elle, elle vit pas l'émotion en fait, elle sait pas trop ce que c'est cette émotion-là. Et en tout cas, par rapport à ce que moi je vis, bah, elle pourra jamais le raconter. Donc je peux pas lui demander, par exemple, de raconter mon entorse, comment je l'ai faite, ce qui s'est passé, comment la guérir, elle va me mettre des choses très factuelles. Par contre, sur des thématiques, elle pourrait probablement arriver à sortir des contenus qui sont intéressants. Si par exemple, je voulais faire des contenus sur l'histoire, il n'y aurait aucun problème pour que ChatGPT me fasse un épisode sur l'histoire et puis ensuite me fasse un script et que le script, j'arrive à le faire lire par une IA. Aucun souci. Bon, je suis pas très fan d'histoire, j'ai pas trop envie de faire ça, mais j'ai peut-être des thématiques qui seraient intéressantes. Mais ça reste des thématiques très froides, hein, vraiment très froides. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de lui faire un câlin à la thématique. C'est un peu ce que je veux dire. Il n'y a pas de moelleux, ça reste une espèce de plaque froide, métallique. Vous mettez la main dessus, c'est froid, quoi. Contrairement à un coussin qui est un peu moelleux, qui est un peu chaud, sur lequel vous avez envie de passer dedans avec une petite couette et tout, en vous disant, bah tiens, j'ai envie d'en savoir plus sur le sujet, j'ai envie de m'installer dedans, j'ai envie d'en découvrir plus. C'est ça, en fait, la différence que je fais. Hein, voilà. Moi, vous voyez un peu l'image. En tout cas, chez moi, elle est assez claire. Bref, tout ça pour vous dire que moi, en tout cas, ce que je voudrais faire vraiment là-dedans, c'est vraiment aller dans ce domaine-là. Ensuite, ça m'amène maintenant à des questions. Ces questions-là, je vais vous les donner après. Mais avant, je dois vous donner mon deuxième engagement. Et vous allez comprendre que c'est un petit peu lié, cette histoire-là. Là, je crois qu'il y a deux semaines, ou peut-être la semaine dernière, je ne sais plus, je vous avais dit que je n'achèterai plus de formation en 2024. J'achèterai plus de formation et que le budget formation, je le mettrai plutôt sur les coachings. Que j'avais dépensé trop d'argent dans les formations, que ça servait plus à rien, que la plupart des formations n'avaient pas le niveau que j'escomptais, que ça n'allait pas me faire progresser et que maintenant j'ai besoin d'avoir aussi plutôt des gens qui m'accompagnent, avec lesquels je puisse échanger, discuter, qui puissent m'apporter des réponses. Et donc plutôt, j'avais dit, je prends le budget formation et je le déplace sur les coachings. Bah, je me suis un peu planté carrément en vous disant ça. Disons que j'ai manqué d'une petite précision importante. Parce qu'il y a quand même une précision qui est très importante et je voulais vous donner là-dedans. La précision, en fait, c'est que je ne prendrai plus de formation dans les domaines annexes à mon activité, qui sont par exemple le marketing, le copywriting, la vente, etc. C'est-à-dire tout ce qui va me permettre de vendre ce qui est dans mon activité principale. Mon activité principale maintenant, on va dire que ça serait d'accompagner des personnes comme vous, quarantenaires, ou plus, ou un peu moins, qui ont envie de reprendre en main leur vie, qui ont envie soit sur le plan physique, soit sur le plan de la santé, et là on est plutôt dans la partie SAM, qui met 42, soit sur le plan entrepreneurial, création de contenu, business, développer une nouvelle activité, s'exprimer sur Internet, etc. Et là on est plutôt dans cette partie où je suis maintenant. Le fil rouge de tout ça, en fait, c'est que nous sommes des quarantenaires plus ou moins, hein, quelque chose près, souvent des parents, mais pas forcément, mais peut-être parents d'animaux, hein, dans certains cas en tout cas. J'ai envie de dire, hein, mais beaucoup de parents quand même dans Kilomètre 42, j'ai beaucoup de gens qui sont des parents, et quand ils sont pas parents, beaucoup ont aussi des animaux de compagnie, enfin voilà. Et puis après, un peu le mode de vie aussi qui va avec, c'est-à-dire avoir une maison, un travail fixe et autres. Et puis dans la partie business là, podcasting, développement d'activité, développement de visibilité, comment je fais pour vendre en ligne, je suis aussi dans les personnes que j'ai en coaching, en accompagnement, pas forcément des parents, mais souvent des personnes qui ont déjà 10-15 ans de carrière, qui ont des fois un appartement, des fois des prêts, des fois un métier qui les gave un petit peu, des envies d'ailleurs, des envies de changer. Et souvent, en plus, les deux parties se réunissent parce que pour arriver à faire certains des projets qu'ils veulent, par exemple, entreprendre, faire un tour du monde, changer de vie, lancer un podcast, il faut avoir la forme, il faut avoir de l'énergie. Et c'est là où le mode de vie athlète, façon Sam, rentre en jeu. C'est pour ça que les deux thématiques, pour moi, sont assez connectées. Et que c'est vraiment cet esprit-là de dire, hop, mon activité principale, c'est comment j'aide finalement des quarantenaires et plus, puisque j'ai pressé ça, mais on va dire les cheveux gris au sens large, alors plus ou moins gris, hein, voilà, mais en tout cas plutôt dans cette zone-là, à bien vieillir, à devenir ce que j'appelle, voir ça, l'image du vieillard galopant, mais vieillard qui est peu galopant, mais en tout cas du vieillard souriant, quoi. C'est-à-dire que de dire, j'attends pas que ça se passe et je deviens acteur finalement de créer un futur qui me plaît, dans lequel je me sens bien, dans lequel j'ai un vrai métier qui me plaît et pas un métier vide de sens. Enfin, en plus, un métier vide de sens, vous savez, c'est le sens où des fois vous savez même pas à quoi sert ce que vous faites dans votre bureau, parce que officiellement vous savez à peu près à quoi ça sert, mais globalement à quoi sert de faire ça, un fichier Excel, des tableaux. On sait qu'il y a des bullshit jobs dans ce monde qui sont énormissimes, hein, ça permet d'occuper beaucoup de gens. Mais les gens qui les occupent, en général, sont un peu malheureux quand même. Donc, c'est plutôt d'arriver à sortir de ce truc-là quand on est là-dedans, et puis de sortir aussi d'environnement toxique au niveau du travail en disant, bah tiens, j'ai envie de changer. Ou alors aussi de se dire, bah tiens, ça fait des années que je suis passionné par ça, je pourrais peut-être aller travailler dans ce domaine-là parce que ça m'intéresse plus, parce que j'ai envie d'aider les gens. Enfin voilà. Bref, vous avez compris à peu près, grosso modo, un petit peu la cible là-dedans. Bon, pour aider les personnes dans ce domaine-là, donc vous, en fait, il me faut des connaissances. Alors, par exemple, si c'est, il va me falloir plus de connaissances en nutrition, en entraînement, préparation mentale, des méthodes pour vous amener à agir, hein, quand je vous ai en coaching, dans les formations, voilà, tout un tas de choses comme ça. Mais là où je veux en venir, en fait, c'est que là, dans ces domaines-là, nutrition, entraînement, préparation mentale, technique de coaching, probablement, enfin des choses comme ça, là, oui. Je garde en fait un budget formation potentielle. Sur l'année prochaine déjà, par exemple, il y a une ou deux formations que j'adorerais faire. Il y a une formation préparation mentale. Alors là, normalement, j'ai déjà les clés pour la faire. Il faut juste que ça s'active. Ça venait d'un partenariat avec une personne. Je voudrais faire une formation en entraînement et en nutrition sportive, et notamment un truc un peu pointu qui arrive, qui est plutôt sur autour de la rentrée septembre-octobre, mais qui a un gros investissement, et donc dans ce cas-là, ben, il faut quand même trouver le moyen de le financer. Je m'étais même dit que je pourrais me former avec certificat d'entraîneur et tout en course à pied ou dans le sport, et aller plus loin aussi dans ces domaines-là. Nutrition, de la même manière, même si en nutrition, j'ai fait une certification, je suis certifié aussi en préparation mentale, mais c'est d'investir dans les formations qui me permettent en fait d'être meilleur dans mon activité. Mais le but, c'est vraiment de dire, je n'ai plus acheté de formations qui me permettent, on va dire, de communiquer, de vendre autour de mon activité. Pourquoi ? Parce que ça, en fin de compte, je le maîtrise tellement. J'ai eu des lacunes pendant pas mal de temps sur les techniques de vente, les techniques de copywriting. Parce que le copywriting en école de commerce, ça n'existait pas quand j'étais étudiant. Techniques de vente, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait un peu pourtant, j'ai eu des cours de vente. Mais on n'est pas de pratique, et puis pendant des années, j'en ai pas fait. J'ai fait un petit peu j'étais un peu vendeur à la FNAC quelques temps. J'ai fait malheureuse histoire, je vous ai raconté ça de porte à porte à vendre des brioches. Bref, donc il y avait vraiment des choses à faire. En copywriting, il y avait vraiment des choses à faire, en vente, etc. Tout là-dedans, bon. J'en ai beaucoup appris, vraiment beaucoup appris. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est de dire que dans ces domaines-là, pour aller plus loin, j'ai plutôt besoin d'avoir un accompagnement, d'avoir une sorte de ping-pong avec des gens qui permettent en fait de me challenger, de poser des questions, de faire évoluer. Et d'ailleurs, l'autre jour, j'ai demandé à ChatGPT de jouer ce rôle-là. Ça m'a permis d'avoir plein d'autres idées, mais ça, j'en reparlerai. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Et le but pour moi, c'est de devenir meilleur dans ce que je propose. Je ne veux pas devenir meilleur dans la manière de le vendre, parce que je pense qu'en fait, être meilleur dans la manière de vendre quelque chose est le prolongement de devenir meilleur dans ce que l'on propose. Et là, je vais vous expliquer le truc. C'est-à-dire que si vous voulez vous lancer dans le coaching de n'importe quel domaine, on va dire du coaching de vie. Bon, c'est un peu large, c'est un peu compliqué, mais on va dire coaching de vie. Si vous espérez en fait que avoir des clients réguliers dans ce domaine-là, si vous espérez être un peu reconnu, il faut que vous soyez un très bon coach de vie en fait. Il ne faut pas que vous soyez un charlatan, il ne faut pas que vous soyez quelqu'un qui pose trois questions et qui n'a jamais de piste pour faire avancer les gens. Il faut que vous soyez bon dans votre domaine, il faut que vous soyez bonne dans votre domaine. Et donc, si vous êtes bonne dans votre domaine, si vous êtes bon dans votre domaine, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous savez que vous allez être bon, vous savez que vous pouvez aider les gens, proposer des produits, des services de meilleure qualité, proposer des programmes qui sont mieux construits, des choses qui permettent d'avoir une transformation vraie, une vraie transformation et aussi une transformation plus importante. Des questions qui ont plus d'impact, un effet waouh plus important chez les gens. Et donc ça, ça vous va mettre en confiance. Vous êtes plus confiant dans ce que vous proposez, ce qui vous êtes, vos savoirs, les services que vous proposez, le fait aussi que les gens soient contents de vous, qu'ils vous recommandent aussi derrière. Et donc à partir de là, tout devient beaucoup plus facile d'y aller au marketing et vente. En fait, je pense même qu'on pourrait être assez nul en marketing et en vente quand on a quelque chose, un produit dont on est très confiant, qu'on sait que ça marche, et qu'on est capable d'en parler avec le cœur, ce que je disais dans le point 1, qu'on est capable d'en parler avec le cœur, avec des émotions, avec de l'envie, de dire voilà, je sais que ça marche et autres. Parce que des très bons, franchement, trouver en plus quelqu'un qui est bon en copywriting, j'ai envie de dire, si vous avez un petit peu d'argent, vous allez trouver un copywriter qui va vous faire votre page de vente. Bon, il va la faire à sa manière. Il y a quand même, il faut le dire, hein, j'ai vu quand même des gens très connus qui ont fait appel à des copywriters extérieurs et en général, ils n'en ont pas toujours été satisfaits parce qu'ils perdaient un petit peu leur style. C'était un petit peu trop bateau, quoi. C'est un petit peu trop standard et ces copywriters qui font du trop standard, eux, un jour, ils vont se faire remplacer par ChatGPT. Ça, c'est à peu près certain, mais c'est voilà. Sauf s'ils apprennent à mieux utiliser ces outils-là en attendant ou alors à ne plus faire du standard et à faire du sur-mesure, du vraiment du sur-mesure. Mais n'empêche que ma conviction profonde, c'est que meilleur vous êtes dans votre domaine de compétences, et plus c'est facile de le vendre. Tout simplement parce que vous savez que vous êtes bon dans votre domaine de compétences, ça vous rend plus confiant, vous savez que vous avez des résultats, vous savez que vous pouvez vraiment aider les gens, vous savez que quelle que soit la question qu'on finit par vous poser, vous avez à peu près la réponse. Et moi, je sais que ces domaines-là, j'en suis... Alors, dans, selon les domaines, j'en suis... si on faisait de 1 à 10, il y a des domaines où je suis plus proche de 7, 8, des domaines où je suis un peu plus loin, enfin voilà. Et donc, je me dis, ben, les domaines où je suis un peu plus loin, faut que je grimpe, les domaines où je suis pas très loin de ce que je voudrais avoir comme niveau de base, hein, il me faut maintenant plus d'expérience, et ben là-dedans, je vais continuer un petit peu à entretenir, à progresser, à coacher pour avoir plus de vision, pour continuer à apprendre aussi. Et aussi, je vais m'appuyer aussi sur mon vécu, de qu'est-ce que je vis moi, au quotidien, qu'est-ce que je fais, comment je le fais. Et j'en reviens donc à mon point 1. À partir de là, je le répète, c'est-à-dire que on se facilite la vie en fait. L'idée de cet épisode, c'est de vous dire que comment je vais me faciliter la vie et comment je vous propose de vous faciliter la vie aussi. C'est-à-dire de 1, vous créez des contenus sur ce que vous vivez. 2, en fait, vous devenez meilleur sur ce que vous proposez. Et à partir de là, en fait, en racontant même comment vous devenez meilleur sur ce que vous proposez, sur grâce au point 1, eh ben, vous êtes plus confiant pour le vendre. Et vous n'avez pas besoin d'avoir tout l'armada de marketing, de communication, de trucs qui brillent, de promesses extravagantes pour arriver à vendre. Avec point sur lequel, en général, on n'est pas très à l'aise. Parce que, vendeur de tapis, hier encore, j'ai vu quelque chose où une personne qui fait un bon chiffre d'affaires, mettait en vente un produit, alors je sais plus combien il était, genre, on va dire 197€, et rajoutait derrière des bonus, et les bonus faisaient, je sais pas, on a l'impression qu'il y avait 1000€ de bonus. Stratégie marketing. Attention, stratégie marketing. Que les bonus semblent avoir plus de valeur que le produit en lui-même. ou en tout cas de faire acheter le produit parce que les gens, il y a quelque chose dans le bonus qui les intéresse. C'est l'image, en fait, vous savez, souvent je donne ça, l'image de la cerise sur le gâteau. J'ai donné ça un jour à une cliente en coaching, on était dans un bar et je lui ai expliqué un truc. Parce que ce jour-là, je lui ai même montré, je lui ai prouvé le truc. Et ça, c'est un truc que vous pouvez faire, c'est vraiment très drôle. Vous pouvez essayer ça. Imaginez maintenant, enfin, ouais, je sais pas, vous prenez dans un bar un truc, vous savez, où il y a de la chantilly dessus. Et puis la personne, elle prendrait, je sais pas, un latte macchiato avec de la chantilly dessus. Et puis vous prenez un latte macchiato avec de la chantilly. Et dessus, vous rajoutez un petit gâteau. Voilà. Et c'est le bonus, c'est le petit gâteau. Et bon, imaginez que la formation, le produit, le coaching, ça soit le latte macchiato avec la chantilly. Et puis que, en fait, vous ayez à côté le latte macchiato et la chantilly, plus le petit gâteau dessus. Seul bonus. Vous mettez sur la table les deux l'un en face de l'autre. Et il y est. Immanquablement, la personne qui est en face, et moi ça avait marché, j'avais rigolé ce jour-là, elle regarde le truc, elle dit, mais c'est quoi ce petit gâteau? Mais pourquoi t'as un petit gâteau? Mais t'as de la chance d'avoir un petit gâteau, mais c'est quoi ce petit gâteau? Mais j'aurais voulu ce petit gâteau. Et ben, quand vous avez quelqu'un qui, comme ça, passe à votre page de vente, le petit gâteau, c'est le bonus. Le truc que vous allez rajouter en disant, bah, tiens, tu prends la formule au-dessus, c'est le petit bonus. Et le truc, c'est que nous sommes faits, comme ça, c'est ainsi fait, que quand nous n'avons pas le petit gâteau, le petit bonus, on a l'impression que le reste est finalement à moins de valeur. Et alors, quand on propose des petits bonus comme ça sur le plan marketing, eh ben on sait que ça permet aux gens de dire bah tiens, je vais prendre le petit bonus. Et c'est par exemple, je connais un formateur, j'ai acheté de ses produits. Il vend systématiquement ses produits. Il a deux formules. La vente, il a un produit genre à 197€. Et puis il a un produit sur lequel il rajoute 10 à 15% de prix. Et en fait, dessus, il y a des bonus. J'ai testé sa formule et vous pouvez être sûr que toutes les personnes qui ont acheté le produit ont systématiquement acheté le produit avec le bonus. Toujours, toujours, toujours. C'est une manière, en fait, d'avoir un petit prix d'accroche un peu plus bas et puis de monter un prix un peu plus haut, mais pas forcément beaucoup plus haut, mais qu'avec les bonus, en fait, vous soyez à peu près sûr d'amener les gens sur la version avec les bonus et donc de leur vendre au prix que vous voulez vraiment leur vendre le truc. Bon, voyez, c'est facile à expliquer, je suis capable de vous l'expliquer, je l'ai appliqué, je pourrais vous l'expliquer tant que je veux, etc. Et on est vraiment, vraiment là dans des tactiques de marketing. Et tout ça, en fait, ce que je veux dire, c'est que si vous êtes à l'aise avec ce que vous faites, si vous savez que votre latte macchiato de départ, votre produit de départ est de bonne qualité, qui va être bon, que la personne va se régaler, vous n'avez aucun problème à lui vendre. Et en plus, vous n'avez aucun problème à lui dire, oui, mais tu vois, je te rajoute un petit gâteau, là, ça fait 50 centimes de plus, tu auras le bonus. Et vous savez qu'en fait, le gâteau, il va l'aimer, mais qu'il va aimer aussi le latte macchiato dans sa globalité. Donc, de là, le marketing et la vente deviennent beaucoup plus faciles. J'ai mis des années, moi, à être facile avec cet aspect-là parce que, en fait, au départ, je n'avais pas les bons produits, les bonnes offres, la manière de les présenter parce que j'essayais de me dire, ah, il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ce truc-là. Lui, il vend comme ça, il faut que je parle de vraiment, il faut que je copie des autres. Et ça, c'était une erreur, mais énormissime, qui m'a fait perdre des années, des années, des années. C'est pour ça que je vous en parle. Mais là où je voulais aller aussi, c'est de vous dire, bah, je suis encore aussi sur cette démarche-là, hein, d'avancer là-dessus, de faire attention à faire justement, de pas retomber dans le piège, ou en tout cas, de voir comment je peux amplifier, hein, le fait de trouver ma méthode à moi et la méthode que moi qui me semble la meilleure. Et c'est ce que je suis en train de vous expliquer là sur mes grands engagements. À partir de là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh ben, si on mélange le point 1 et le point 2, on va arriver, en fait, sur des questions que vous pourriez vous poser et que vous allez vous poser parce que vous êtes, vous faites les exercices que je vous donne, hein, toujours, bien sûr, avec des conseils, des questions, en fait, qui vont vous aider à développer votre activité, que vous allez vous poser et que si vous répondez à toutes ces questions, il y en a 4, vous allez avoir derrière une panoplie de contenus, une série de contenus. Et je vous garantis, c'est pas du marketing, hein, ils vont être simples à faire, faciles à faire, et ils vont être très efficaces pour votre business en ligne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ces questions-là vont permettre de pointer sur le 1 et sur le point 2 de ce que je viens de vous dire. Vous avez compris le point 1 et le point 2. Maintenant, sur ce point 3, ces questions-là vont vous permettre d'aller chercher des exemples, des réponses qui répondent aussi pour faire le même exercice que ce que moi je vais faire sur l'année qui vient. Ces questions sont des éléments qui vont permettre de faire un point, déjà pour vous, pour savoir où vous en êtes, ce que vous avez fait. Probablement vous donner de la confiance, beaucoup de confiance, je pense. Trouver ensuite des contenus qui vont résonner chez votre audience. Et là, c'est vraiment important parce que ce que vous vivez, vous, ben, les personnes qui veulent suivre votre exemple, votre chemin, vont probablement avoir les mêmes questionnements, les mêmes problématiques, les mêmes soucis. Et donc, Et ben, si vous avez, si vous le racontez, ben, ils vont se reconnaître. Et, ah bah tiens, je l'ai vécu. Et si vous avez trouvé une solution, ils vont envie de connaître la solution pour que eux, quand ils le vivent, et ben, ils arrivent à solutionner le problème plus rapidement. Et vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, ils seront très faciles à faire, ces contenus, car ils sont tous tirés de votre expérience. Tous tirés de votre expérience. Et là, vous n'avez pas besoin d'aller chercher dans une encyclopédie, vous n'avez pas besoin de chercher dans les livres, vous n'avez pas besoin de faire des heures et des heures de recherche pour trouver, en fait, des exemples, pour trouver le cœur des choses, pour trouver la mécanique, puisque vous l'avez vécu, parce que vous êtes dedans. Bah oui, dedans. Et voilà. Et puis, ça va vous permettre aussi d'expliquer ce que vous faites, pourquoi vous le faites, comment vous le faites, et pourquoi vous vendez ce que vous vendez, et comment vous aidez les gens à solutionner les problèmes qu'ils vont rencontrer. Et pourquoi vous pouvez les aider à les solutionner? Parce que tout simplement, vous avez vous-même trouvé les solutions pour que les gens arrivent à solutionner les problèmes. Parce que vous-même, vous aviez ce problème avant que vous avez solutionné. Si vous arrivez à suivre le truc, vous allez comprendre les questions que je vais vous proposer désormais. Voici donc, on va dire, je crois qu'il y en a quatre. Oui, il y en a quatre. Bon, il y en a une qui est un petit morceau, mais il y en a quatre. Quelles sont donc ces grandes questions à vous poser sur votre thématique, sur ce que vous voulez faire, ce que vous voulez proposer comme contenu, comme programme, comme formation, comme podcast, n'importe quoi, ça s'applique à tout et ça s'applique globalement à votre marque personnelle. Première question, vous pouvez marquer une feuille, qu'est-ce que j'ai vécu comme difficulté et problème dans votre thématique précise, hein. Mais bah, qu'est-ce que j'ai vécu comme difficulté, comme problème? Alors, ça c'est, je l'ai marqué au passé, pourriez le faire maintenant. Qu'est-ce que je suis en train de vivre comme difficulté, comme problème? Et puis, vous pourriez mettre aussi au futur, qu'est-ce que je vais croiser comme difficulté, comme problème dans les mois qui arrivent ou les semaines qui arrivent? Bon, je peux vous donner un exemple. Prenons la course à pied. Qu'est-ce que j'ai vécu dans le passé, démarrer en course à pied? Qu'est-ce que j'ai vécu dans le passé, être opéré du genou, reprendre après une opération du genou, la rééducation? Tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce que je vis maintenant? La blessure, je vous en ai parlé, mon entorse. Voilà, hein, comment je le vis. Et qu'est-ce que j'imagine rencontrer comme problème? Eh ben, la rééducation pour mon entorse. Là, vous voyez qu'il y a des espèces de ponts qui sont en train de se faire. C'est que, avec ce que j'ai vécu par le passé et ce que je suis en train de vivre maintenant, je peux vivre plus sereinement ce que j'ai vécu, ce que je suis en train de vivre maintenant, parce que je sais que j'ai vécu la même chose ou pire dans le passé et que j'en ai guéri et que j'ai réussi à faire des choses après. Et comment j'ai réussi à le faire. Et ça m'amène aux questions d'après. Et qu'en plus, ça me permet, en fait, tout simplement, de raconter des choses, de faire des parallèles, de faire des différences. Mais ça me permet d'ouvrir plein de contenus. Donc, vous listez peut-être une dizaine de difficultés, de problèmes que vous avez vécu dans le passé, que vous êtes en train de vivre maintenant, ou que vous savez, ou vous imaginez que vous allez rencontrer. Voilà. Ça, vous pouvez en faire une dizaine. Maintenant, deuxième grande question. Quelles sont les grandes interrogations que vous avez dans votre propre domaine? Quelles sont les grandes interrogations que j'ai dans mon domaine? Quels sont les trucs que je me pose comme question? Là, c'est vraiment un point qui est important aussi, parce que ces interrogations-là, si vous les posez vous dans votre domaine, vous pouvez être sûr qu'il y a plein d'autres gens qui se les posent dans leur domaine. C'est sûr. Hein. En fait, on pourrait dire, vous savez, la fameuse loi du 80-20, il y a tout un tas de problématiques, mais il y a une grande chance que 80% des gens se posent la même question, ou les deux, trois grandes questions, en fait. Deux, trois grandes questions. Si vous posez cette question-là sur votre domaine, vous pouvez être certain que d'autres personnes se posent la même question sur votre domaine. Quel que soit le domaine, mais vraiment quel que soit le domaine. On pourrait prendre n'importe quel domaine, que ce soit la nutrition, que ce soit le sport, que ce soit le podcasting, que ce soit la domotique, que ce soit la photographie, que ce soit l'épilation, que ce soit l'éducation des enfants, que ce soit la coiffure, que ce soit le... Tout. La formation, le changement de vie, tout. Et systématiquement, on arrive sur quelques grandes questions. Si vous posez des questions sur votre propre domaine, sur ce que vous êtes en train de faire, sur votre vie, sur comment vous faites les choses, et qu'est-ce qui peut être un peu compliqué, ou les questions que vous êtes en train de vous poser, pour être certain qu'il y a d'autres personnes qui se posent les mêmes questions. Vous pouvez en parler, parce que déjà, ça montre où vous en êtes. Et puis, ça va vous montrer aussi bah, qu'il y a des gens qui vont peut-être vous poser des questions, qui peuvent peut-être vous apporter des éléments de réponse aussi. Et puis, ça montre aussi que le cheminement, c'est-à-dire que quand vous allez avoir plus tard... Quand vous pourrez dire bah, j'ai réussi à faire ça, ces interrogations-là que vous êtes posées vont vous permettre en fait de rebondir dessus, de dire bah voilà, à une époque je m'y interrogeais là-dessus, bah maintenant j'ai trouvé une réponse à ça, et vous allez pouvoir en parler. Alors, ça fait partie des grandes questions qui sont très importantes. Troisième grande question, quelles sont les erreurs que j'ai commises dans le passé? Les trucs que vous êtes commis. Moi, par exemple, j'ai commis une erreur en course à pied qui était de changer de basket trop près de mon premier marathon. Que j'ai pas fait assez de renforcement musculaire. Que j'ai pas fait telle ou telle chose. Voilà. Quand ma fille est née, j'ai fait une couvade parce que j'ai mal mangé, parce que j'avais mal anticipé la reprise du rythme de travail. Après avoir coupé pendant 3 mois, il fallait que je rattrape beaucoup de temps. Ça me semblait une bonne idée de faire une grosse coupure comme ça, mais le temps que j'ai après pour reprendre a été compliqué. Et donc derrière, j'ai mangé n'importe comment, j'ai pris 10 kilos. Tac, erreur, erreur. Bref, on peut le dire. Et à partir de cette erreur-là, vous voyez, le contenu, il est facile parce que je suis capable de vous dire sans faire de recherche exactement ce qui s'est passé, pourquoi, comment j'en suis venu à bout, etc. Et même si j'étais pas capable de vous le dire de tête, si vous aviez la bonne idée de tenir un journal, eh ben dans le journal, vous auriez les informations qui vous permettent d'ajouter des éléments, les craintes que vous avez pu avoir, les peurs que vous avez pu avoir et tout. Mais si c'est des craintes et des peurs, en général, on s'en souvient. Par exemple, la crainte et la peur que j'avais de ne plus jamais pouvoir recourir quand j'avais mal au genou et que je devais me faire opérer du genou, de mon ménisque, celle-là, elle est gravée en moi. Elle est gravée en moi. Je peux très bien en parler. C'est très facile d'en parler, en fait, à mon audience. C'est très, très, très simple d'en parler. Pour ça que je dis qu'en fait, c'est un contenu qui sont extrêmement simples à faire. Maintenant, quatrième question. Quelles sont les réussites que j'ai eues dans le passé? Alors là, celle-là, elle est très importante parce que déjà, elle vous donne confiance. Vous avez eu des problèmes. Vous avez eu des interrogations, vous avez fait des erreurs, mais vous avez des réussites. Donc, ça veut dire que quelque part, tout n'est pas noir, hein, voilà, simplement. Par exemple, moi, il y a un moment donné, je pourrais dire, une année, je me suis planté, et je l'avais dit, hein, je me suis planté sur les. Quand j'ai vendu ma première formation, j'ai attendu trop longtemps pour vendre ma première formation, 18 mois, j'ai fait une grosse erreur. J'avais peur, j'avais des grosses difficultés, j'ai mis trop de temps à faire mon site, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup d'éléments là-dessus. Je peux en parler très facilement, très librement. Maintenant que c'est passé, je peux se dire, oui, mais je suis content parce que j'ai quand même lancé un podcast qui avait telle audience, j'ai quand même eu des premiers clients, les premiers clients ont fait des retours, j'ai quand même réussi à apprendre de ça, j'ai quand même réussi à faire en ligne ma formation, j'ai quand même réussi à le gérer de telle ou telle manière. Et maintenant, je sais aussi que, grâce à ça, j'ai pu faire d'autres choses derrière. Donc les réussites que j'ai eues dans le passé, c'est ça. Et puis dire, tiens, j'ai essayé ça, j'ai une formation qui s'est vendue qu'à 2 exemplaires. Oui, j'ai une formation qui s'est vendue qu'à 2 exemplaires. J'en ai une autre qui s'est vendue à 70 exemplaires. J'en ai une autre qui se vend à 30 exemplaires. Et ben voilà, j'ai des réussites. Hein, j'ai des réussites. Oui, j'en ai une qui s'est vendue à 2 exemplaires. Mais à côté de ça, j'en ai qui sont vendues à 70 exemplaires. Réussite. Voilà. Erreur, réussite, interrogation et tout. Voilà. De ces questions-là vont découler en fait les choses que vous avez faites, les choses que vous êtes en train de faire, où vous en êtes, vos difficultés que vous avez eues, et comment vous avez réussi à les résoudre quand vous les avez eues, comment vous pensez pouvoir les résoudre, hein, là, vous pouvez en parler ou pas, hein, c'est à vous de voir, et puis qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, et puis un point aussi qui est intéressant, c'est vers où vous voulez aller et vers où vous voulez amener votre audience. Par exemple, quand l'an dernier j'ai commencé à parler de vélo, enfin il y a longtemps, j'ai commencé à parler de vélo, de vouloir faire de l'aventure, etc. J'ai commencé vraiment à parler de ça, de comment je le vivais, comment me lancer dans le vélo, les problématiques que j'allais rencontrer, choisir le vélo, choisir les aventures, comment démarrer dans le vélo, faire ça, tac, 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 tous les éléments, là je pouvais les empiler. Et Kilomètre 150 est rempli en fait, c'est-à-dire que tous les épisodes de Kilomètre 150, par exemple qui sont sur mes aventures vélo, pour être sûr que chaque épisode, sauf les épisodes avec des invités et encore, correspondent à des réponses aux questions que je viens de vous donner. Vraiment. Qu'est-ce que j'ai vécu comme difficulté à une époque? Quand j'ai voulu commencer à courir, je sais pas comment m'y prendre. Maintenant, quand j'ai voulu commencer vélo, je sais pas comment m'y prendre. Parallèle entre les deux. Les interrogations que j'ai dans mon domaine. Est-ce qu'il faut que j'ai un vélo de telle taille ou telle taille? Est-ce qu'il faut que j'ai telle ou telle sacoche? Est-ce qu'il faut que je m'entraîne 2 heures par jour ou 2 heures par semaine? C'est immense. Les erreurs que j'ai commises quand j'ai commencé à mettre dans le vélo, sur ma première course, etc. Quelles sont les réussites que j'ai eues? Ah première semaine, je voulais faire ça, j'ai pas réussi, mais j'ai réussi à faire ça, etc. La deuxième semaine, au bout d'un mois, j'ai réussi à faire ça. Bon, je pensais que je pouvais faire ça, je me suis raté, erreur. Mais au bout d'un mois, j'arrivais à faire ça, j'ai réussi à faire comme ça, etc. Quelles sont les peurs que j'avais eues à une époque aussi? J'avais peur, par exemple, de changer mes pédales pour passer à des pédales automatiques. Et puis, je me suis rendu compte que j'arrivais à rouler avec. Bon. Tous ces contenus-là que je viens de vous donner sont tous des épisodes de Kilomètre 350. Tous, tous, tous. Et la caractéristique de Kilomètre 350, c'est que j'ai eu sur tous les épisodes des commentaires, des gens qui m'ont dit « J'ai le même problème, j'ai le même questionnement. Ah tiens, là tu m'as bien aidé. Ah moi aussi je me posais la question sur le vélo. Bah moi aussi j'ai un truc sur mes pédales. Moi aussi j'ai ça, etc. » Ça veut dire que à chaque fois que je parle d'une problématique, d'un problème que j'ai eu, d'un problème que j'ai, d'une question que je me pose, il y a toujours quelqu'un qui soit l'a vécu, soit en train de la vivre, soit va la vivre très prochainement, et donc ça résonne en cette personne. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que si vous partagez ça, vous allez créer une connexion avec votre audience. Vous allez créer une connexion avec votre audience. Et les gens vont dire, ah oui, mais tiens, je me reconnais. Il me ressemble en fait. Vous d'un coup, vous montrez bah, que vous ressemblez en fait. Vous n'êtes pas comme quelqu'un qui a la parole divine, qui sait tout, qui a un livre, quoi. Non, vous êtes quelqu'un qui vit les choses, qui les partage, qui a des problèmes, qui a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Vous devenez d'un coup pas lisse, hein, pas lisse, hein, ni froid ni lisse. Alors vous avez l'avantage, hein, vous savez que si vous essayez de monter une grande paroi vitrée ou métallique sans accroche, vous ne pourrez pas monter. Elle serait froide et vous ne pouvez pas monter. Un rocher, vous pouvez monter dessus parce qu'il y a des petits trucs pour agripper, des petites accroches, etc. Donc vous pouvez le faire. Donc c'est bien d'avoir des petites accroches. C'est bien d'avoir des trucs sur lesquels les gens peuvent s'agripper. Et les aspérités sur lesquelles ils vont s'agripper, ben, c'est ce qu'on vient de parler. C'est les réponses à ces questions. Si vous prenez ces 4 questions et que vous trouvez 10 réponses pour chacune de ces questions, vous avez pas loin d'un an de contenu sur votre thématique en publiant un contenu par semaine, à peu près. Donc le travail va peut-être vous prendre 1 heure ou 2 heures à faire. Mais si vous le faites, vous avez une série de contenus, et encore, je parle même pas des rebonds, des parallèles, de dire, bah tiens, je pensais avoir ça, qu'est-ce qui, hop, et puis c'est passé ça en fait, et comment vous allez raconter. Et en plus, c'est des contenus qui vont vous prendre zéro temps pour se créer. C'est-à-dire que vous pourriez le faire dans la rue en parlant, comme vous faites à des amis. Pourquoi? Parce que bah, vous l'avez vécu, parce que vous êtes en train de le vivre, parce que vous n'avez pas besoin de rechercher des informations dessus, vous êtes en plein dedans. Ou alors les informations que vous cherchez, c'est pour résoudre votre problème. Donc vous partagez vous-même les informations que vous avez trouvées, donc vous les apprenez encore mieux. Mais globalement, en fait, vous devenez juste meilleur dans votre thématique, vous devenez meilleur dans ce que vous faites, vous devenez meilleur dans votre capacité à le raconter et vous créez aussi plus de liens avec votre audience parce que vous êtes capable de créer des contenus qui vont vraiment les intéresser beaucoup plus. C'est tout bénef. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est tout bénef. C'était un petit peu la recette. Alors, j'aime pas dire que c'est une recette magique, une recette miracle, parce que non, ça vous demande encore du travail. Ça vous demande bien sûr de répondre à ces questions. Ça vous demande aussi d'oser le dire. Peut-être qu'il y a des questions où vous ne voudrez pas en parler. Il y a peut-être des points sur lesquels vous n'avez pas envie d'en parler. En général, c'est quand même le truc un peu subsidiaire, je dirais, c'est qu'on n'a pas trop envie de parler de la merde dans laquelle on est. Et on dit en général qu'il faut pas trop parler de la merde dans laquelle on est. C'est pour ça que généralement, quelles sont les difficultés que vous avez en ce moment, ça dépend le niveau de difficulté. C'est une petite problématique, grosse problématique. Mais il y a peut-être des problématiques dont vous n'avez pas envie d'en parler. Mais par contre, vous pouvez vous dire, j'en parlerai plus tard, quand j'aurai résolu le problème, quand j'aurai solutionné le problème, et etc. Parce qu'en général, c'est comme ça qu'on fait. On dit, ça, j'en parle pas trop maintenant parce que bah, je sais pas trop, parce que bon, au bout d'un moment aussi, si ça met un peu de temps à se résoudre, c'est un peu compliqué. Donc il faut vous laisser du temps, vous protéger aussi hein, des commentaires négatifs que vous pouvez avoir. Mais une fois que vous les solutionnez, eh ben vous pouvez en parler d'autant plus librement que vous savez que vous avez trouvé des pistes pour le solutionner. Et les gens qui auront la même problématique, eh ben derrière, eh ben ils vous feront confiance parce qu'ils savent aussi que vous avez trouvé une solution et que vous l'avez vécu et que vous savez ce que c'est que de l'avoir vécu et que vous pourrez donc faire preuve probablement de plus d'empathie que quelqu'un qui le connaît que par l'avoir lu dans un livre Wikipédia ou ChatGPT. Sur ce, je n'ai rien d'autre à dire que cette méthode s'applique à toutes les thématiques, quel que soit le domaine. Je vous ai parlé de sport, mais on peut faire dans le podcast. Par exemple, j'ai ma petite voix qui me gratte. Ça me rappelle que j'ai une époque, j'avais fait un épisode sur comment éviter d'être malade et garder sa voix quand on fait du podcast, qui était tiré justement de mon vécu, de mes épisodes, de mes périodes où ma voix s'était éteinte. Et c'est simple, c'est très simple à faire. Si vous êtes dans la domotique, vous pouvez très bien dire les erreurs que j'ai faites quand j'ai acheté mon matériel, les problématiques que j'ai maintenant, ce que j'imagine que je vais avoir comme problématique si je prends tel ou tel matériel, ce que j'ai voulu faire et comment j'ai réussi à le faire, ce que j'ai voulu faire, ce que je n'ai jamais réussi à faire. C'est facile. Si vous êtes dans le domaine, je sais pas moi, de la nutrition, enfin de la cuisine, vous pourriez dire, bah voilà, une fois j'ai voulu faire un gâteau d'une bûche de Noël et c'était un raté. Quelle est l'erreur que j'ai faite? Comment j'ai corrigé? Comment j'ai réessayé? Ce qui s'est passé? De quoi j'étais content? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Comment j'ai pu faire? C'est déclinable à l'infini. C'est vraiment déclinable à l'infini. On pourrait parler de musique aussi. Je pourrais vous parler de mon harmonica, mais comme j'ai pas beaucoup progressé en harmonica, c'est voilà. Mais l'erreur que j'ai faite, je pourrais très bien dire, bah voilà, je voulais apprendre à jouer de la musique, j'en ai parlé, je m'étais engagé auprès de vous à dire, je voudrais apprendre un instrument, vous m'avez conseillé, vous m'avez aidé, j'ai choisi, j'ai commencé à m'entraîner un petit peu, mais je me suis pas accroché. Erreur, bam. Et un jour, si j'arrive à jouer un petit morceau, ben, comment j'arrive à apprendre, comment j'ai réussi à prendre l'habitude de m'entraîner, comment j'ai été content de moi, etc. Quel que soit le domaine, ces quatre questions-là fonctionneront. Donc, je vous laisse maintenant travailler sur ces quatre questions-là. Et puis, n'hésitez pas, bien entendu, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous avez des remarques, si vous voulez de l'aide aussi pour vous aider dans ce domaine-là. Voilà, moi, je, vous savez, mon LinkedIn, mon Twitter, pas trop en ce moment, enfin X maintenant, Instagram sont ouverts, bien entendu. N'hésitez pas, vous pouvez mettre aussi un commentaire sur Apple Podcast, un commentaire sur Spotify. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs.